Bonsoir, ça va?
Bien? Oui, bon.
Là, il était là-haut, là, qui est là. Là? Ah oui, il est là, là, là.
Ok.
Bien. Alors, le shiur de ce soir est Lilui Nishmat, mon maître à Moshe sur le Lévitique, et aussi Sarah Betson, parce qu'ils sont niftarim le même jour, à des années de différence, mais le même jour avec la même maladie.
Qui est la deuxième maladie?
La femme.
Alors, on reprend les bonnes habitudes. On allait, jusqu'à présent, on avait deux parashiot par Shabbat. Après, on était interrompu avec Emor, où il n'y avait qu'une seule parasha. On reprend les bonnes habitudes. C'est de nouveau Béar et Bekokotai, de nouveau deux parashiot pour un Shabbat. Et avec ça, on va terminer le Sefer Vayikra. Bon, alors évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. Je voudrais parler sur Bekokotai et sur un point particulier. Quand on regarde ce qu'Hachem reproche au Bnei Israël dans les Klalot, c'est-à-dire dans la liste des, ce qu'on appelle les malédictions, mais c'est-à-dire que tout ce qu'Hachem annonce si on se conduit pas bien, met en avant deux mauvaises conduites de la part d'Israël. Premièrement, vous allez avec moi, vous conduisez avec moi le Kéri, c'est-à-dire comme si ce qui vous arrivait était dû au hasard. C'est-à-dire que vous ne donnez pas de sens à ce qui vous arrive. C'est comme ça, il y a des règles dans le monde, tous les X années, il se passe telle chose, et il y a des cycles, il y a des explications globales, mais qui ne donnent aucun sens réel, aucun sens au sens où le mot veut dire tirer des conséquences, qui modifie sa, la conduite des hommes. Donc ça veut dire que je vous envoie des signaux en réalité et vous les refusez comme tels. C'est-à-dire vous faites comme si ces signaux en réalité n'en étaient pas, pas d'indications qui vous sont données. Et donc vous continuez de vous conduire avec moi de Kéry. La sanction, si on peut parler comme ça, effectivement. Le Kéry, ça veut dire quelque part, vous faites comme si il n'y avait pas la Mida de Mida Keneg, la règle générale de Mida Keneg et Mida. C'est-à-dire que Hachem, quand il envoie un signal, s'il veut qu'on puisse lire le signal, le signal est une commune mesure avec ce qu'il vient signaler. Sinon, on ne pourra jamais remonter le signal. Alors, si vous êtes privé de chocolat systématiquement pour tout ce que vous faites de travers, vous ne pouvez jamais remonter à ce que vous avez fait de travers. D'accord ? Il faut que le signal envoyé, le signe envoyé, vous voyez, le signifiant, si vous voulez, il fasse référence à un vrai signifié. Donc ça, il faut qu'on sache de quoi on parle. Et là, vous faites comme s'il n'en était rien. Alors curieusement, la sanction d'Hachem, c'est que moi aussi, je vais aller Mida Keneged Mida dans votre refus du Mida Keneged Mida. Vous voulez faire, vous envoyez les choses comme si, vous voulez dire ce que je vous envoie comme si c'était pas significatif. Je vais effectivement maintenant vous traiter de telle sorte que vous ne puissiez pas comprendre le message. C'est-à-dire, voilà, vous allez dans un monde de l'absurde. C'est absurde parce que on n'arrive pas du tout à remonter du signe qui nous arrive à quoi que ce soit au niveau de la conduite. Ça nous indique absolument rien. Donc, quelque part, la punition pour le fait que les Bnei Israël ne respectent pas, si vous voulez, le principe de Mida Keneged Mida, c'est qu'Hachem va aller Mida Keneged Mida dans leur non-respect de la Mida Keneged Mida. C'est un peu paradoxal. C'est-à-dire, maintenant, vous allez plus, je ne vous enverrai pas de message que vous pourrez décrypter. C'est-à-dire, vous êtes dans le monde de l'absurde. Et ça, c'est une première chose. Et l'autre élément, l'autre chose qui est au profit d'Israël, dans le chapitre Kavvav 26, verset Tetvav, verset 15, parce qu'il dit, c'est-à-dire mes décrets, c'est considéré comme quelque chose de dégoûtant. J'ai aucun respect pour cela, vous considérez que ce sont des bêtises. Et si mes mishpatim, c'est-à-dire même les lois rationnelles, mes lois qui sont rationnelles, vous en avez du dégoût. Et que vous ne faites pas mes mitzvot. Vous allez trahir en quelque sorte mon alliance. Donc c'est ici ce qui est d'une certaine manière reproché au peuple d'Israël, c'est le fait de pas respecter l'alliance avec Hachem. L'alliance avec Hachem, c'est une alliance qui, du point de vue d'Ebné Israël, c'est la contribution dans l'alliance avec Hachem, c'est que l'Ebné Israël, justement, pratique le mitzvot, comme Hachem l'a demandé. Et du côté d'Hachem, alors, il enverra Shalom Baaretz, etc. Mais, alors Hachem dit, vous avez rompu mon alliance, vous niez, c'est une rupture de l'alliance. Alors moi aussi, c'est Afani et ses autres, Lachem. Alors moi aussi, vous ferez la même chose. Et donc, vous aurez tout le contraire du fameux Shalom Baaretz. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez travailler pour rien, si vous voulez, vous allez voir ce que c'est que de ne pas respecter l'alliance avec Hachem. Rashi dit sur le pasouk, sur la partie du pasouk, la trahison, la négation de la rupture de l'alliance, Rashi dit kofer beikar. C'est-à-dire, rompre l'alliance, c'est nier l'essentiel, en fait. Faire effacer l'essentiel de la relation. Et là, Rashi ajoute, on parle ici de 7 averot, avec la dynamique que la première entraîne la seconde la troisième, etc., jusqu'à la septième. Et Rashi énumère ce qu'il appelle les 7 averot. 7 averot, à ce niveau-là, c'est l'olamat, n'a pas étudié, l'orassa, pas pratiqué, moes b'acherim haosim, il est dégoûté par ceux qui, eux, font les mitzvot, sonné chachamim, il a de la haine pour les chachamim, il est moné à, il empêche les autres de faire les mitzvot, il est kofer les mitzvot, il nie la valeur des mitzvot, et enfin, kofer b'ikar. Là, c'est ce que dit Rashi, donc c'est assez énorme. La préférée de Briti, c'est, ça y est, c'est vous avez complètement tout coupé de la relation avec Hachem. Le Ramban, effectivement, il va aussi dans le sens de dire la préférée de Briti, c'est les gamrés, c'est la coupure complète. C'est-à-dire, alors le Ramban explique qu'est-ce que ça veut dire d'être dans la négation, dans la rupture de l'alliance. Lié de l'autorat, et dans ce cas-là, il n'y a plus de Torah. Et s'il n'y a plus de Torah, alors c'est les attire la haine. Pourquoi les gens veulent-ils refuser la Torah? Parce que ça leur permet ils se permettent ainsi de les attire la haine à Rayot de Pharisiens. Ils se permettent ainsi les relations sexuelles interdites en public. C'est pas seulement transgresse, mais ils s'en transgressent ouvertement en public. De kol ta'ava te'arev le nafsham. Et en fait, tout leur sera très agréable, tout ce qui est considéré comme absolument répugnant, tout ce qui est abomination, ça, ils vont l'aimer. C'est, ça sera agréable pour eux. Alors, ensuite, le Ramban ajoute, il dit, Al-Derech HaEmet, en général, c'est un petit Kabbalah, mais là, il dit que il y aura, c'est le FR, le contraire absolu de Venatati Shalom Baaretz. Le contraire de ce qui est marqué dans le Pasuk Vav, où Hachem dit Venatati Shalom Baaretz, je ferai en sorte qu'il y ait le Shalom dans le pays. Et là, Rashi dit sur ce verset Vav, vous pouvez regarder, Rashi dit Shalom Shakul Keneged Akol. Le Shalom, il pèse autant que tout le reste, parce que si on a beau tout avoir, on a à manger, on a à boire, on a tout ce qu'il faut, mais s'il n'y a pas de shalom, tout ça ne vaut rien du tout. Et le Ramban, il entre ici dans une question. Je vais vous donner tout de suite sa réponse, mais peut-être il vaut mieux d'abord ramener la question que le Or HaChaim pose. Le Or HaChaim, il demande pourquoi est-ce que la Torah elle écrit cela. On a déjà écrit auparavant Vishartem Lavetach. Vous allez résider en sécurité. Donc maintenant dire qu'il y aura le Shalom, il a déjà dit vous aurez la sécurité. Alors c'est très étonnant la question du Or HaChaim, ça veut dire en tout cas on entend que dans sa question il pense que le problème du shalom c'est un shalom par rapport à l'extérieur. Vous serez en paix avec les voisins, donc on vous dit Vishatem Beta, vous serez tranquille, vous serez en sécurité. Et le Ramban, en quelque sorte, il a déjà répondu à la question de Or HaChaim en disant qu'en fait, le shalom dont on parle ici, c'est shalom Benechem. C'est un shalom entre vous. C'est pas un shalom par rapport à l'extérieur. Shalom par rapport à l'extérieur, c'est vrai, il a déjà été dit au verset Vav. Vishtaftem betar, vous serez en paix, il n'y aura pas, les ennemis ne vous embêteront pas. Mais, ici, ça, il s'agit du shalom benechem. Et il ajoute, velot ilchamu ish be'achiv. Il n'y aura pas de guerre intérieure, en fait. Il n'y aura pas de lutte de l'un contre son frère. Ou bien, du Ramban, ou bien alors c'est dire que Hachem va faire en sorte que toutes les bêtes sauvages vont disparaître. Donc on voit très bien que le Ramban a tout envisagé, sauf la guerre par rapport à l'extérieur, parce que ça s'est réglé, comme le dit le Or HaChaim avec le Pasuk Vav. Donc il restait maintenant, ok, on est réglé. Les ennemis, je m'en charge, comme dit l'autre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec mes amis? C'est-à-dire les gens avec lesquels je vis. Alors, faut vivre avec, il y a des bêtes sauvages, je règle ce problème-là aussi. Après, il reste le problème de la cohabitation avec mon frère. Comment on vit avec ça? Et donc, Hachem dit, si vous faites ce que je vous ai demandé, le kokotai telechou, etc., alors il y aura le shalom entre vous. Et là, on comprend bien que les lois de la Torah, elles sont faites pour qu'il y ait le shalom entre les gens. D'accord? Donc, il faut toutes les entendre dans ce sens-là. Les lois qui nous sont données sont des lois qui ont pour but de réaliser un shalom intérieur, en quelque sorte, un shalom entre les juifs eux-mêmes qui sont sur les habitants de cette terre, la terre d'Israël. Et maintenant, rompre l'alliance, dit Ramban, c'est exactement le contraire. C'est justement, qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai que ils vont se permettre n'importe quoi, comme dit Rashi, Arayot Befaresia, etc., toutes les tavot, tout ce qui est interdit, tout ce qui est abomination, ils vont le faire avec grand plaisir. Mais c'est justement le contraire de cette situation qui est la situation visée par les mitzvot en particulier, c'est-à-dire celle d'obtenir le shalom entre les gens. Et justement, si vous ne respectez pas la Torah, comme je l'ai demandé, eh bien, il n'y aura pas le shalom entre les gens. Donc, rien ne vaudra, c'est-à-dire que, à la limite, tous ces fameux plaisirs dont vous pensez qu'ils vont vous rendre la vie agréable et tout, la vie sera absolument désagréable dans la mesure où il y aura des guerres intestines, donc, des guerres civiles. Le Baal HaTurim, à son habitude, il dit sur le pasouk qui dit « Vishbati haya ra'a » que ferait disparaître les animaux sauvages. En Gematria, dit le Baal HaTurim, je ferai disparaître les animaux sauvages, ça veut dire « Elu arba malchuyot babel madai yavan et edom » c'est-à-dire que je ferai disparaître les quatre royaumes correspondent aux galouyotes d'Ebné Israël, Babel, Madaï, c'est les Perses, les Mèdes, donc les Grecs, et Edom, le Rome et la suite de Esav. Donc c'est ça les caractéristiques, si vous voulez, de ce que Hachem d'une certaine manière, ce que Hachem reproche au peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'il y a effectivement toutes ces torahot ici. Elles sont dans le problème de la rupture de la relation avec Hachem. Ce sera, on le verra plus tard, ce sera complètement différent dans les torahot de Parshat Ki Tavoh. Là-bas, c'est autre chose. D'abord, on ne parlera jamais de la rupture de la relation. Ici, Hachem menace toujours de dire, ben, si vous rompez l'alliance, alors l'alliance sera rompue, je vais vous faire vivre cette alliance rompue. Vous allez voir ce que ça veut dire, en quelque sorte, quand l'alliance est rompue. Alors maintenant, ce qui serait intéressant, c'est que on y regarde un peu plus près cette notion de Brit. Et à ce sujet-là, on va revenir un tout petit peu en arrière. On va s'occuper de choses qui ont été dites dans la parasha de la semaine dernière. Voilà. Il y a un Midrash Rabbah sur Parshat Emor, sur la mitzvah du Homer, puisqu'on est encore toujours dans le moment du Homer. Le Midrash dit Leolam alti mitzvat ha Homer kala be'enecha. Il ne faut surtout pas que la mitzvah du Homer apparaisse à tes yeux comme une mitzvah légère. C'est vrai que c'est une mitzvah, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Quand on va aller couper un petit peu d'orge, alors qu'il vient tout juste d'être mûr, et puis on va l'amener au Beth Amikdash, on va un peu le balancer devant le Mizbeach. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est exactement? On a l'impression que c'est un peu calme, c'est un peu léger. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas la prendre à la légère? Parce que chez Alidé, mitzvah à Homer, grâce à la mitzvah du Homer, Zacha Avraham lirachet Eretz Kenan. Si Avraham a hérité, pour lui et pour toute sa descendance, Eretz Kenan, c'est grâce à la mitzvah du Homer. Alors comment s'était construit cette drôle d'idée? Qu'est-ce que la mitzvah à Homer a à voir avec Avraham Avinu? C'est marqué dans le pasuk, c'est marqué Venatati lecha ulzaracha acharecha, je te donnerai à toi et ta descendance après toi et eretz megurecha et kol eretz kenan l'achuzat olam, je te donnerai tout le pays de Canaan en héritage. Et la drachelle continue, al-menat, sous condition. La condition, c'est quoi? Ve'ata et briti tishmor. Toi, mon alliance, tu dois la garder. Et le Midrash dit, ve'ezu, eze, c'est quoi le... Qu'est-ce que ça veut dire? Ze mitzvata omer. C'est la mitzvah du omer. Qu'est-ce qu'il veut ce Midrash là? Est-ce que tout à coup, on parle évidemment de la Brit Mila? Hachem dit à Abraham Avinu, tu dois garder l'alliance que j'ai faite avec toi et dont le signe est la Mila. Et on dit non, qu'est-ce que c'est être Briti Tishmor? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut garder? La mitzvah du Homer. Alors, bien entendu, bon, le pasuk qui ne parle que de la Brit Mila, que de la Mila, marqué dans le texte. C'est marqué Ved Briti Asher Tishmeru, Veni Uvenechem, etc. Imol Lachem Kol Zachar. Bon, c'est clairement, l'alliance, c'est quoi? La Mila. Mais là, derrière Remez, de façon allusive, on parle ici de la mitzvah du Homer aussi. Et les Chachamim m'expliquent comment ça fonctionne. Il y a une Xera Shava. Xera Shava, c'est un principe de herméneutique, un principe de Limoud, si vous voulez. C'est quand il y a deux termes identiques, dans deux sujets différents, alors il y a des situations dans lesquelles, en général, c'est une Kabbalah, c'est une tradition reçue par les maîtres, que les deux sujets où se trouvent ces mots-clés, là, ces deux mots-là, il faut apprendre de l'un sur l'autre. On va faire passer des lois qui se trouve dans un des sujets, dans l'autre sujet, et vice-versa. Alors ils disent, les Chachamim m'expliquent, c'est marqué Tishmor. Ve'ata et Briti Tishmor. Tu vas garder mon alliance. C'est marqué dans la mitzvah du Homer. Elle est aussi exprimée, non pas dans la Torah, mais dans le Lachon du Navi Yirmiya. C'est marqué ici aussi, le Lachon Shmira, c'est marqué Shvot Chukot Ktsir Yishmar Lanu. Et ça fait référence au Homer. Donc, bien sûr, on se demande quand même... En quoi d'abord cette Shmira fait référence, même de façon allusive, même lointaine, à la mitzvah du Homer. A priori, Vata et Briti Tishmor, toi, mon alliance, tu la garderas, c'est l'alliance de la Mila. On ne comprend pas ce que le Homer vient faire dans le cadre de la Brit Mila. Et d'autre part, on se demande aussi en quoi l'action qui est faite sur le Homer, ce balancement du Homer, en quoi est-ce que c'est quelque chose qui est un signe d'alliance? Bon, alors évidemment, on est obligé d'essayer de réfléchir. Et la première chose qui nous frappe, c'est qu'est-ce que ça peut vouloir dire la Shmira par rapport à la Brit Mila. La Brit Mila, par définition, c'est un geste, d'accord, on tranche, c'est fini, la Brit elle est faite. Shmira, c'est quelque chose qui dure, qui va se répéter, etc. C'est fait. Le mot Shmira, il est quasiment impossible à mettre en rapport avec la Brit Mila. La Brit Mila, par définition, c'est un acte qui prend fin immédiatement après avoir fait. Il n'y a pas de durée qui vient dans la Mila. peut pratiquer la mitzvah, on peut ne pas la pratiquer, mais c'est tout ou rien, mais c'est pas un truc que on l'a fait mais pas assez longtemps, ou ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire ici que Abraham a reçu deux mitzvot quand on lui a, Hachem lui a donné la mitzvah de Mila. Et nous avons gardé une partie. Je vous ai déjà dit souvent que nous ne faisons pas la Mila parce qu'Abraham a nous a fait la Mila. Nous ne faisons la Mila hein, parce que dans Parshat Tazria, il est dit Yimol Lachem, c'est marqué au milieu du processus de purification de la Yoledet, d'une femme qui a accouché. On dit voilà, pendant 7 jours, elle sera impure. Et puis le 8e jour, on s'attend à ce qu'on dise quelque chose la concernant. Pas le 8e jour, on fera la Mila. Ça arrive comme un cheveu sur la soupe là-bas. Donc en vérité, nous quand on fait la Mila, on fait la bracha, c'est là qu'il est chanou be mitzvotah ve tzivanou, et selon que c'est le père ou un moël qui fait, bon disons on fait bracha la Mila ou la moule, peu importe, mais en tout cas sur l'acte de Mila. Voilà, c'est-à-dire en fait sur la Mila telle qu'elle est dite dans Parshat Tazria. Mais après, on fait une deuxième bracha, dans laquelle on dit que Hachem nous a ordonné l'achniso bivrito shel Avraham Avinu. On va faire entrer l'enfant dans l'alliance d'Avraham Avinu. Ça veut dire, on prend pas chez Avraham Avinu l'acte de la Mila, mais on prend l'alliance de la Mila. Donc pas le maase mitzvah, mais le brit de l'alliance qu'il y a avec ça. C'est-à-dire, il y a une façon de le faire entrer, par la Mila, on fait entrer l'enfant dans l'alliance d'Abraham. C'est pas qu'il n'est pas juif avant, hein, bien sûr. Il est juif dès sa naissance. Mais entrer dans l'alliance avec Abraham Avinu, ça se fait par la Mila. Donc, il y a donc deux choses. Alors, on comprend bien le geste de la Mila, ça on comprend très bien. Mais maintenant, il y a ce problème, c'est quoi la shmira, c'est-à-dire, c'est quoi faire durer la chose, se souvenir de la chose, ce lien qui se crée, ben, un brit, c'est bien une alliance, donc c'est un lien avec Hachem, c'est clair. On n'a pas besoin de, donc il y a là, un lien entre Akadosh Baruch Hu d'une part, et Abraham et sa descendance d'autre part. Ce lien-là, a priori, c'est un lien qui va favoriser une relation particulière de ceux qui sont en alliance avec Hachem, avec Hachem justement. Être en alliance avec Hachem, c'est obtenir une relation, créer avec Hachem une relation particulière, bon, dont on ne dit pas exactement en quoi elle sera particulière, mais en tout cas, ça donnera une relation particulière. C'est ça. Ça veut dire c'est ça qu'on essaye d'obtenir en fait. On essaye d'obtenir cette relation exceptionnelle avec Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, ça va nécessiter des sacrifices de la part du clan d'Israël, etc. Mais on pense que cette alliance vaut la peine finalement. Alors il y aura l'alliance. C'est ça qu'on veut obtenir. Mais justement, cette alliance, on nous dit ici que le porteur de cette alliance, le geste qui va perpétuer cette alliance, marquer la perpétuation de cette alliance, si on veut, ce sera justement cette mitzvah du Homer, cette opération-là qu'on va faire avec le Homer. maintenant on pourrait dire pourquoi la mitzvah du Homer, pourquoi pas une autre mitzvah? Qu'est-ce qu'il y a dans la mitzvah de Homer de particulier pour qu'elle joue ce rôle si important de la perpétuation de l'alliance avec Hachem? Alors je voudrais faire juste une petite remarque. La mitzvah du Homer, c'est de cette histoire d'aller couper l'orge qui est fraîchement et qui est tout juste mûre. C'est l'orge parce que c'est la première céréale qui est mûre. Il y a aussi d'autres raisons. Cette mitzvah, elle est dite quand? Elle est dite, enfin, quand est-ce qu'elle s'applique? Elle s'applique mimachorat au lendemain du fameux Shabbat. Le lendemain du premier jour de Pessah. C'est-à-dire le lendemain du jour où on a approché, mangé le Corban Pessah. Pour pouvoir manger le Corban Pessah, il était absolument nécessaire, c'est une condition sine qua non, d'avoir fait la Mila. Moshe Rabbeinu a fait faire la Mila à tous les bénis Israël pour qu'ils puissent manger le Korban Pessah. Et même par la suite, dans notre histoire, si vous voulez, on aura l'obligation de faire la Mila. Quelqu'un qui n'aurait pas fait la Mila, il n'a pas fait la Mila pour lui-même, et même il n'a pas fait la Mila de ses enfants, ou même il n'a pas fait la mila de ses avadim, de ses esclaves, il ne peut pas manger le Korban Pessah. Donc, si vous voulez, Korban Pessah, ça implique la mila a été faite. L'acte de mila, la coupure, si vous voulez, elle a été faite. Et donc, c'est intéressant que juste le lendemain de ce qui avait nécessité la mila, dans le Korban Pessah, qui montre quand même la proclamation de l'unité d'Hachem par les Bnei Israël. La première chose qui nous est demandée, c'est de veiller, on pourrait le dire, à la perpétuation de l'alliance qui a eu lieu en faisant la Mila pour pouvoir faire le Korban Pessah. Tout de suite, il y a le premier souci, immédiatement après le Korban Pessah, il n'y a pas d'autre souci premier que le Homer, ce fameux Korban à Homer. Donc, on voit très bien qu'il joue un rôle fondamental. En tout cas, il est placé à un moment absolument fondamental. Si on veut essayer de comprendre cette histoire-là, il faut qu'on comprenne l'alliance un peu. Et alors maintenant, il faut remarquer que en hébreu, dans la chambre de la Torah, quand on parle de faire cette alliance, on dit « koret brit ». Koret, c'est tranché justement, c'est coupé. J'ai donc coupé une alliance. C'est un peu curieux. On a l'impression qu'il y avait une alliance et qu'on l'a coupée. Mais construire l'alliance, ça consiste, ça se dit « koret brit ». C'est-à-dire que, au contraire, on fabrique un lien alors que le mot « koret », a priori, c'est un mot qui dit qu'on coupe. Et donc, on a l'impression que c'est une provocation, ça, la plus sacrée brite. D'un autre côté, le Ramban, il dit que le mot brit, il faut l'entendre parce que son sens fondamental, c'est brit olam, alliance éternelle. Ok, alors maintenant on a gagné quelque chose. Brit, ça vient de brit, c'est une espèce de raccourci pour brit olam. Ok. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette krita de brit, à ce moment-là? Alors, on sait très bien que l'alliance avec Abraham Avinu, elle a eu lieu au moment, enfin, elle est appelée dans Chazal l'alliance entre les morceaux, Brit Ben Abetarim. D'accord. C'est-à-dire que on représente, comment est-ce qu'on faisait une alliance? On tranchait un animal en deux, écartait, et les gens passaient au milieu. Quelque part, ce qui les faisait l'alliance, c'est d'avoir passé entre les deux morceaux d'une unité, quoi. Quelque part, comme si on les avait inclus dans cette unité. Ils sont en alliance parce qu'ils sont en même temps compressés, si vous voulez, des deux côtés. C'était la fameuse alliance Brit Ben Abetarim d'Abraham Avinu. Donc on voit que la notion de Brit, une notion initiale de Brit, elle se fait avec quelque chose. Il a fallu couper en deux. Il a fallu trancher. On tranche. Quand on lui tranche une alliance, ça veut dire on va trancher de telle sorte qu'on va pouvoir faire l'alliance. Pour pouvoir faire une alliance, il faut trancher. Alors, on aurait dû dire passer au milieu d'eux. Mais bon, on a gardé trancher comme étant le geste qui va permettre l'alliance. Le geste en question, c'est trancher. Donc, toute alliance se fait toujours en tranchant. Et c'est pour ça que l'alliance se fait, elle s'appelle Mila, ne maltem et besav orlatrem, ne maltem, la chône Mila, d'accord, le targum c'est Batik Zvun, c'est-à-dire, vous allez trancher. Vous allez, les Targoumés, ils disent, vous allez trancher Yat Bisra de Orlatron. Vous allez trancher la chair de votre Orla. Et donc, le mot Lamoul, qui est l'acte de faire la Mila, il veut donc dire trancher. Alors, bien sûr que on voit pas exactement dans cet acte-là en quoi c'est quelque chose qui entraîne l'alliance. Alors maintenant, le Brit. C'est sûr que le Brit avec Abraham Avinu, curieusement, Abraham Avinu, quand il avait un manque, et son manque, il a fallu le trancher, il a fallu avoir, son manque c'est qu'il avait quelque chose en trop. D'accord? Puisque ce qu'on a fait c'est qu'il a fallu couper. Il a fallu éliminer. Donc, tout est à l'envers. Nous, on pense que le manque, il aurait fallu ajouter quelque chose. Non, le manque, il s'est exprimé par un en plus, un en trop, si vous voulez. Et donc, l'idée, ce qui est intéressant, c'est que chez Abraham Avinu, quand il a fait la Mila, donc il a fallu enlever un en trop. Mais cet entrop qu'on a enlevé au niveau du corps d'Abraham Avinu, il a entraîné, si vous voulez, un en plus au niveau du nom d'Abraham Avinu. D'accord? On a enlevé un morceau de chair, si vous voulez, on a ajouté une lettre. Il a passé d'Abraham à Abraham. Et du coup, il est devenu autre. Donc, il n'est pas devenu autre parce que et on lui a fait la Mila, si on le parlait comme ça. Il est devenu autre parce que son nom a changé. Mais son nom a changé avec cet ajout de la lettre Hé à son nom, qui a donné un autre sens à son nom, etc. Et n'oubliez pas que, effectivement, Hachem a confirmé ce que lui disait Nimrod. Avram est nomolite. Avram ne peut pas avoir d'enfant. Avram n'a pas de futur, Avram. Mais Avraham, ça c'est autre chose. D'accord? C'est le fait d'avoir changé de nom qui lui a permis d'avoir un futur. Donc, si vous voulez, même la notion de « je te donnerai à toi et à tes descendances », à ta descendance, la notion de descendance, si vous voulez, elle n'existe pas chez Avram. Il n'y a pas de descendance. Pour avoir une descendance, il faut qu'il s'appelle Abraham, il faut qu'on lui enlève l'en plus, c'est-à-dire un défaut, c'est-à-dire un manque, d'accord, cette espèce de débordement, en quelque sorte, pour qu'il puisse avoir un zera, et à la limite, on comprend bien que donner la terre d'Israël à quelqu'un qui n'aurait pas de descendance, ça n'a aucun sens. Et donc, toute la notion de pour être capable d'avoir la terre d'Israël, d'une certaine manière, Abraham l'avait déjà en quelque sorte. Il avait la promesse d'Hachem. Mais bon, il y a aussi ta descendance, mais la descendance c'était abstrait à ce moment-là. Donc, en vérité, la grande différence entre Israël et les peuples, Chazal, quand il parle, on parle des Bnei Israël, on parle d'eux en tant que Bnei Brit, Ben Brit. Et les Goïm sont appelés Eino Ben Brit. Donc, le Ben Brit, c'est le terme qui va faire la différence entre les Bnei Israël et les Omot HaOlam. On comprend bien que si quelqu'un nie ou si quelqu'un rompt l'alliance avec Hachem, on comprend bien que, comme on dit, ou quoi, il est Kofer Beikar. Kofer Beikar, c'est un terme qui est utilisé, que tout le monde connaît, parce que il est utilisé dans la Haggadah Pessah. D'accord? Et de qui est-ce qu'on dit qu'il est Kofer Beikar? On dit, bon, c'est un rachat. Mais qu'est-ce qui nous le définit comme rachat, comme étant Kofer Beikar? C'est quoi? C'est le fait qu'ils disent la femme, à vous. Velolo. Li velolo. C'est ça. N'est-ce pas? Ça veut dire, le fish est otsi et atzmo mina klal. Il s'est sorti du klal. Il est sorti de ceux qui sont bnei brit. Le klal, il est, qu'est-ce qui fait que nous sommes un klal? C'est nous sommes l'ensemble des gens qui sont en alliance avec Hachem. C'est ça? Les bnei Israël sont les Brites, donc des gens qui sont en alliance, les fils de l'alliance. Vous voyez, comme on dit Bar Mitzvah, le fils de la Mitzvah, Bnei Brit, Ben, c'est la même chose que Bar. Bar, c'est en araméen, et Ben, c'est en hébreu. Je la connais. Et donc, quand on dit Ben Brit, un fils de l'alliance, c'est ça. C'est l'appartenance au clan d'Israël, c'est d'être Ben Brit. Nous sommes les gens qui sont dans l'alliance avec Hachem. Et Hachem dit, si vous êtes dans mon alliance, alors vous aurez le shalom. Il y aura le shalom, c'est-à-dire, si vous êtes dans mon alliance, le fait d'être en alliance avec moi, ça va quand on est en alliance avec quelqu'un, mais on a des obligations de part et d'autre. Le quelqu'un, il a des obligations et nous aussi, on a des obligations. Bon, c'est ça l'alliance. Tu fais ça et moi, je fais ça. Dans une alliance, on est associé. Il y a une forme d'association dans une alliance. Donc, on travaille tous les deux dans le même sens, pour le même but, en fait. Donc, cette alliance avec Hachem, bien sûr, c'est un peu particulier parce que c'est pas une alliance comme l'alliance avec tout le monde, avec quelqu'un d'autre, mais parce qu'il y a un tel déséquilibre dans cette alliance qu'on comprend même pas comment une alliance est possible, mais c'est Hachem qui a décidé de donner une alliance. C'est pas nous qui avons décidé, qui avons inventé que nous sommes capables d'être en alliance avec lui. Il nous a proposé une alliance, il nous l'a donnée. À nous, il nous a donné l'alliance. Donc nous, on a quelque chose à faire. Et si on le fait, on aura fait notre part de l'alliance. Et du coup, Hachem fait la sienne. Et c'est-à-dire la notion de shalom. Donc, cette idée de Ben Berit, dont on parle ici, être dans l'alliance avec Hachem, comme on a vu, c'est donc un certain type de relation avec Hachem qu'on poursuit, qu'on veut avoir ici. Et celui qui n'est pas dans l'alliance, c'est, qu'est-ce qu'il pense? Il pense effectivement, et c'était effectivement le sort de tous les peuples idolâtres, c'est-à-dire, d'une certaine manière, c'est des gens qui pensent qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls. Le problème de l'alliance, c'est qu'Hachem, d'une certaine manière, nous dit que le seul moyen pour les hommes de se débrouiller, d'avoir le shalom vraiment, c'est d'être en alliance avec Hachem. Pourquoi? Parce que sinon, dans la société, elle va se donner obligatoirement, où les gens vont prendre le pouvoir, et le pouvoir des hommes sur les hommes, on sait ce que ça donne. Ça donne obligatoirement des comportements déviants, des comportements inacceptables. Donc le seul moyen, c'est d'être en alliance avec Hachem, par conséquent, de ne pas pouvoir s'imaginer que on est le maître, même si on est le roi, on n'est néanmoins pas le maître des gens. Il y a quelque chose au-dessus du roi. Le roi, lui aussi, il est astreint. Lui aussi, il est dans l'alliance. Et lui aussi, il est astreint aux Chokot et aux Mishpatim, etc. Bien sûr, il a un peu plus de pouvoir que Monsieur Tout-le-Monde. Mais il est astreint. Il doit se plier aussi à quelque chose. Et il est obligé de se plier. Et c'est ce que refuse, en quelque sorte, ceux qui sont pas dans l'alliance. La façon de regarder les choses de celui qui est Ben Berit, bien entendu, il s'agit de s'occuper de soi aussi, de ses désirs, de ses projets, etc. C'est juste. Mais quand on ne s'occupe que de ça, alors on est du côté de ceux qui ne sont pas dans l'alliance. Pour les Bnei Israël qui sont dans l'alliance, ce qui est au centre de leur monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Pour les Omot HaOlam, pour les Eno Bnei Brit, qui est au centre, c'est l'homme qui est au centre. Donc, tout tourne autour de lui, donc de sa jouissance, de son plaisir, etc. La limite, c'est un peu ce que disait, je crois que c'est Louis XIV ou XV, je ne sais pas, disait, pourquoi c'est comme ça? Tel est mon bon plaisir. Je suis le roi, et c'est ça que je veux, c'est tout. Ça suffit comme justification de n'importe quelle conduite. C'est mon bon plaisir. Et tous les gens qui ont du pouvoir, quelque part, leur bon plaisir essaie de diriger les choses, de prendre le pouvoir. Regardez, il y en a aujourd'hui encore, il y en a quelques-uns qui sont des caricatures de cela. Donc celui qui est Ben Berit, il a mis Hachem au centre de son monde. D'ailleurs, l'image de la Mabar, si vous voulez, c'est un Kadosh Baruch Hu qui est au centre, les tzadikim qui font une ronde autour de lui, et tout le monde pointe Zekeli Vandeo, Zekeli, c'est tout le monde pointe vers Hachem. Mais c'est toujours, la ronde, elle est autour d'Hachem. Bon, cette notion de faire des rondes, la danse, d'une certaine manière, du clan Israël, c'est la ronde. C'est, voilà. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on va mettre au milieu? Pas, ils ont aussi dansé autour du veau d'or. On peut aussi faire une ronde autour du veau d'or. Parce que tout dépend ce qu'on va mettre au milieu. La réussite dans la vie du Ben Berit, c'est s'il arrive à rompre, si vous voulez, le cercle complètement égoïste dans lequel c'est lui qui est au milieu, pour placer Hachem au milieu du cercle et lui se mettre dans la ronde. Donc s'ouvrir, laisser la place à Hachem. Ce qui va impliquer laisser la place à tous les autres qui sont aussi au service d'Hachem et qui jouent un rôle aussi important que le mien. C'est ça le Be'ahavta l'Halacha Kamocha. D'accord? Pourquoi est-ce que je dois l'aimer? Parce qu'il joue un rôle aussi important que le mien dans le monde. Donc la Mila, l'acte de la Mila, il doit exprimer justement. C'est enlever la orla de cette partie du corps qui est liée à la tava, au désir. Elle vient pour montrer le chemin en quelque sorte. C'est-à-dire que il faut mettre tout ça au service de la Kdusha. C'est-à-dire sortir d'une vision animale de l'être humain. L'être humain, c'est un animal qui, etc. Non. C'est pas ça. Un Ben Berit, c'est quelqu'un qui n'est pas un animal qui, etc. Mais par contre, on peut effectivement, même si on est au départ un Ben Berit, on peut rompre l'alliance et dégringoler, et comme disent les Chachamim dans la Gemara, dégringoler et être plus bas, donc bien plus bas que ceux qui sont Eno Ben Berit, et même plus bas que les animaux, et plus bas, dit la Gemara, que les excréments des animaux. Donc, tomber au plus bas. Tout est possible. À partir du moment où un Ben Berit rompt les relations, donc il trahit l'alliance. Il rompt l'alliance, c'est la chute libre. Et il n'y a rien pour l'arrêter. C'est-à-dire, justement, la caractéristique de l'être humain, l'être bride, donc, c'est en fait, ça devrait être la crainte, c'est la possibilité qu'a l'être humain de se maîtriser. Il peut maîtriser. Alors, des fois, c'est pas facile, mais il peut maîtriser. Il a la possibilité. Dans le monde animal, c'est pas comme ça. L'animal, il a, dans les pulsions, ben, il donne libre cours à ses pulsions. Et donc, l'être humain, il peut freiner, il peut remettre, négocier, en quelque sorte, avec son Yetzera, le périphérien, bon. On verra demain. Essayer de gagner du temps et ne pas céder tout de suite. Même si on n'est pas capable de ne pas céder du tout, mais au moins gagner du temps. Peut-être que demain, on aura d'autres idées. Hein. Donc il faut montrer cette idée de, on est capable de maîtrise. Alors, étant donné que on est dans cette alliance avec Hachem, et que les Chachamim nous disent qu'il faut faire attention dans Mitzvah Kalak et Bechabura, faire attention aux mitzvot qui nous paraissent légères comme mitzvot qui nous paraissent beaucoup plus importantes. Et Chazal disent שבכל שעה אדם מודה בהן לאלוקיו וכוונת כל המצוות שנאמין באלוקנו ונודה אליו שהוא בראנו והוא כוונת היצירה. Ça c'est la chambre du Ramban, le fameux Ramban à la fin de Parshat Bo, qui dit que donc l'essentiel, c'est comme on dit dans Pirkei Avot, toutes les mitzvot sont aussi importantes, mais l'important c'est d'être en permanence dans cet état où on est modé, on reconnaît tout ce qu'Hachem nous a donné, et les mitzvot sont là pour exprimer qu'on fait confiance à Hachem, et on reconnaît que c'est lui notre créateur. Et c'est ça, dit Ramban, la raison de la création du monde, en fait. Il dit, En lanu ta'am acher, yetzira rishona. Il n'y a pas d'autre raison pour la création du monde. Ve'en kel elyon chafetz betartonim, et de Dieu en haut, donc, il ne veut rien des créatures d'en bas, c'est des êtres humains, mais il va à l'exception chez Yeda à Adam. L'exception, c'est ce qu'il veut, c'est que l'homme sache. Yeda veyodé, qu'il sache et qu'il reconnaisse l'Elokav Shebrao. Qu'il sache et qu'il reconnaisse que c'est Hachem qui l'a créé. Il dit, c'est la raison pour laquelle on élève la voix dans la tfila, c'est la raison pour laquelle il y a des synagogues, et pour ça qu'il y a une valeur particulière à la prière publique. La raison pour laquelle les gens doivent se rassembler pour que collectivement, ils reconnaissent Hachem est leur créateur. C'est pour ça qu'on a été créé. Tout ça, c'est le fameux Ramban. Donc, la définition de celui qui est Ben Berit, c'est un homme qui est plein de la reconnaissance d'une reconnaissance à l'égard d'Hachem. Alors vous me direz, ok, c'est très bien, mais maintenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire du balancement du Homer? Alors, toujours ce fameux Midrash Rabba, Midrash dit comme ça, sur le pasouk d'Averel Ben Israël, Ravetem et Omer Reshit Ketzirchem Alakoué. Parle au Ben Israël et dis-leur, donc vous allez amener le Omer, qui est le début de votre moisson, vous allez l'amener au Kohen. Amar Abianai, Venorek Sheba Olam, normalement, ce qui se passe dans le monde, c'est qu'Adam Lokeach Litra Achat Shel Basar Minashuk, un homme va, il va s'acheter un kilo de viande, c'est-à-dire en fait, il va acheter de la viande, c'est déjà comestible, il faudra la cuire ou la griller, etc., mais ça y est, c'est de la viande. Donc, tout ce qu'il a à faire, c'est un tikkun léger. Mais en vérité, les gens... pendant qu'on dort, en quelque sorte. Akadosh Baruch Hu fait souffler les vents, il amène des nuages, les végétaux croissent, les fruits se développent. Et qu'est-ce qu'on donne à Akadosh Baruch Hu comme salaire pour tout ce travail? Et la Sahar à Omer. Un petit balancement d'un peu d'orge. C'est ce que dit le Midrash. Ici, on voit que cette offrande de Homer et son balancement, c'est donc l'expression pour le Midrash que les Bnei Israël donnent à leur reconnaissance pour tout ce qu'Hachem leur donne. Pour tout ce Nes Nistar, tous ces miracles complètement cachés, qui sont là dans chaque chose qui pousse, c'est une suite de miracles. Une suite de toutes sortes de conditions qui doivent se trouver réalisées pour qu'on ait effectivement quelque chose de mangeable. Donc là, les Israël expriment leur reconnaissance. Avec trois fois rien. Donc, on pourrait se dire, mais est-ce qu'on en fait vraiment assez pour exprimer cette reconnaissance à Hachem? Mais encore, je vous dis que ça suffit en fait. Or, toute la Torah est là pour que nous apprenions, d'après ce que dit Ramban, pour que nous apprenions à reconnaître Hachem dans les Nissim Nistarim, dans les miracles cachés, Becholiom Iman, tout ce que tu nous fais de choses extraordinaires de façon quotidienne. Alors, bien sûr, sur les miracles, on exprime notre reconnaissance. Mais ceux qui sont visibles, il ne faut pas perdre de vue, c'est pour ça qu'on l'a mis dans la tfila d'ailleurs, qu'il faut exprimer sa reconnaissance dans la Hoda, dans le Modim, la Shemoneh Esrei, il y a cette reconnaissance pour tout ce que tu nous fais chaque jour, dans toutes les situations. Et si maintenant on met un peu bout à bout là ce qu'on a dit, on s'était demandé qu'est-ce que cette mitzvah du Homer a à voir avec l'alliance Hachem avait fait avec Abraham Avinu. Et en quoi le fait d'accéder, d'acquérir la terre d'Israël, en quoi est-ce que ça s'exprime, en quoi est-ce que c'est conditionné par la mitzvah du Homer? Qu'en vérité, l'acte de la Mila, ce geste de la Mila, c'est comme ça, c'est avec ce geste-là qu'on fait entrer l'enfant dans l'alliance. Le balancement du Homer, ça n'est pas fabriquer l'alliance. Mais néanmoins, c'est l'expression de la shmira de l'alliance, de garder l'alliance. Et garder l'alliance, c'est exprimer sa reconnaissance. Parce que l'alliance, elle est, nous on fait les petites choses et Hachem fait les grandes choses en quelque sorte. Et donc il faut, en plus des petites choses qu'on fait, il faut reconnaître ce qu'Hachem fait dans l'alliance. Or, ce que la Torah nous a donné pour exprimer notre reconnaissance, la première reconnaissance en quelque sorte, la première chose à faire dès lors qu'on a mangé le Korban Pessah qui indique Hachem la sortie d'Égypte, la première chose c'est exprimer sa reconnaissance pour tout ce qu'Hachem nous a fait, nous a donné, et toutes les années renouveler la chose avec une toute petite chose, puisqu'en fait c'est presque symbolique. C'est juste pour ne pas oublier tout ce qu'Hachem nous a donné, et c'est pour ça, ne prends pas cette mitzvah à la légère. Parce qu'on pourrait dire, moi, qu'est-ce qu'on a fait, c'est rien du tout. Oui, c'est pas grand-chose. Mais c'est l'expression de... Abraham Avinu, il a eu cette promesse de la terre, uniquement parce que, à cause de cette mitzvah de garder la Mila. Et garder la Mila se fait comment? Avec la mitzvah du Homer. Donc, on ne nous dit pas qu'Abraham Avinu, spécifiquement, il a fait la mitzvah du Homer, mais on nous enseigne qu'il a fait toutes les mitzvot de la Torah. Mais nous, le Homer, il vient lorsque, concrètement, on revit, en quelque sorte, le Pessah, la sortie d'Égypte. Chaque année, on revit la sortie d'Égypte. On doit se considérer comme si on était sorti d'Égypte. Et qu'est-ce que tu dois faire quand tu es sorti d'Égypte? Commencer par reconnaître, exprimer ta reconnaissance à Hachem. Donc c'est ça l'idée fondamentale, c'est que la Brit Mila, c'est un geste très important, très très important, mais quelque part, il faut faire quelque chose pour ça, on entre dans l'alliance avec ça. Mais dans l'alliance, il faut reconnaître la part de l'autre. Et ça, c'est probablement une leçon générale. Il y a une Gemara qui dit que si quelqu'un m'ouvre la porte pour entrer, d'une certaine manière, je lui dois quasiment la vie, quoi. Il m'a permis d'entrer. Sans lui, je pouvais pas entrer. Il m'a ouvert la porte. C'est une leçon, par exemple, dans une relation de couple. J'ai entendu de mon autre maître, Rav Golbet, qui disait que il faut surtout pas que dans le couple, qui est la résultante d'une alliance, quoi. Il y a quand même, on a passé une alliance entre l'homme et la femme se sont alliés, en fait, créé une alliance. Il faut jamais penser que finalement, ce que fait l'autre, bah, il a fait son job. Il n'a fait que ce qu'il avait besoin, ou il n'a fait que ce qu'elle avait l'obligation de faire. Faut impérativement reconnaître le travail qui est fait par l'autre. Et le reconnaître comme si l'autre n'y était pas vraiment obligé. Parce que dès le moment où on pense que l'autre est obligé, alors bon, il est obligé. Donc, c'est vrai. C'est-à-dire, être capable, et c'est difficile, de considérer que ce que l'autre fait, ben, je dois lui en être reconnaissant. Même si, effectivement, ça n'est que le côté de sa partie de l'alliance. Mais ça, c'est pas mon problème. L'autre, il peut penser, moi, ce que j'ai fait, ça n'est que la partie de l'alliance. Mais c'est pour soi-même. De se dire, voilà, ce que j'ai fait, c'est ma partie de l'alliance. Mais celui qui bénéficie de ce que l'autre a fait, il doit le reconnaître comme si l'autre lui avait donné quelque chose et qu'il devait lui en être reconnaissant, quel que soit le travail que lui, il a fait par ailleurs. Cette idée que ouais, moi j'en ai fait autant, etc., donc c'est match nul, d'accord, je dois quelque chose, mais elle me doit quelque chose, ou il me doit quelque chose, etc., et, bah, ça se compense et on va simplifier, je te dis pas merci, et tu me dis pas merci, mais c'est pas vrai. Il faut dire merci. Il faut dire merci parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que il y a entrer dans l'alliance et puis ensuite reconnaître tout ce que fait l'autre dans l'alliance. Alors, la reconnaissance, elle est sans commune mesure avec ce que l'autre a fait. Comme dit le Midrash, Hachem fait tout ça et puis nous, on lui donne, qu'est-ce qu'on lui donne comme reconnaissance, un petit balancement de d'orge. Voilà, ça c'est la notion de Brit et l'importance qu'il y a dans cette notion de Brit. Quand ce Brit n'est pas respecté, lorsque les Bnei Israël ne respectent pas le Brit en question, lorsqu'ils le brisent, d'une part en disant que finalement tous les messages qu'Hachem m'envoie, ben, c'est jamais que, ben, c'est, en vérité, ils sont pas significatifs, c'est, bon, ça se passe comme ça, mais c'est l'ordre des choses, c'est, bon, c'est comme ça. Là, quand il y a eu le déluge, il y a tout de suite eu cette tentation de dire, oui, mais tous les X années, il y a le déluge. Donc c'est bien, on n'a pas besoin de c'est tout, c'est un phénomène naturel. D'accord. Alors c'est vrai que on pourrait se dire, voilà, c'est un phénomène naturel à peu près tous les 10 ans ou je sais pas quoi, on a une épidémie, etc. Un truc mondial énorme, etc. Enfin, c'est pas significatif, c'est partie des rythmes du monde. On n'est pas obligé de s'interroger. Des fois, on s'interroge, on ne sait pas. On ne connaît pas obligatoirement la raison. Mais il faut quand même s'interroger. Se demander, parce que peut-être, si on s'interroge, peut-être on trouvera pas obligatoirement ce qui concerne tout le monde, mais peut-être ça concerne soi-même, la part. Parce que dans cette épidémie, dans ce qui frappe l'humanité dans sa totalité, sa quasi-totalité, mais nous, Bnei Israël, on doit s'interroger pour ce que ça fait pour nous, en particulier, d'autant que beaucoup disent que les Bnei Israël, ils ont été frappés, en tout cas, compris d'Afka les Bnei Torah, ont été frappés plus que les autres. Peut-être parce qu'on n'a pas pris les mesures, et pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris les mesures, pourquoi est-ce que, etc., peu importe. Mais en tout cas, on doit s'interroger, et l'interrogation, c'est pas trouver les coupables, bien sûr. S'interroger, c'est savoir qu'est-ce qu'il faut faire mieux. Qu'est-ce qu'il faut pour effectivement être à la hauteur de l'alliance. s'agit pas simplement de se dire bon on a trouvé le coupable, c'est celui-ci ou c'est celui-là ou c'est ceux-là ou etc. Non, ça c'est pas très constructif. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour que ça n'arrive pas ou pour que ça ait moins de conséquences? Ça, c'est une première chose. Ça, c'est concernant, disons, le Hukotai. Juste, il reste encore un peu de temps. Oui. La paracha, ce qu'on va lire, commence par la paracha de Behar. Behar Sinai, justement. Et la Torah, elle met en scène cette paracha de la Shemitah, en fait, de l'année sabbatique, le met en scène en disant que, voilà, cette mitzvah, elle a été donnée au Sinaï. Comme si, en fait, voilà, c'est, les deux dernières parchiotes, là, elles ont, en ce qui a été donné en dernier au Sinaï. Et d'une certaine manière, il y a ce Daber, Ve'amarta, etc. Et on peut se demander, évidemment, ce que Rashi ramène. La question, c'est Ma'inyan Shemitah Tzelar Sinaï. Qu'est-ce que la Shemitah, elle a à voir avec le Sinaï? Alors, vous connaissez la réponse. Enfin, la réponse, c'est que, en fait, il y a ici un limoud et qui est basé sur le fait qu'il y a des mitzvot, beaucoup de mitzvot, qui sont répétées dans le Sefer Dvarim. Elles ont été répétées dans le Sefer Dvarim parce qu'elles ont été redites Be'arvot Moab, dans le fameux désert avant l'entrée en Eretz Israël. Alors, la tentation, ce serait de se dire, ben voilà, au Sinaï, il y a quand même beaucoup à donner les grandes lignes, les grands principes. Puis ensuite, mon cher Rabbeinu a développé, et on avait le temps, on avait 40 ans de promenade, on avait le temps, il a développé tous les détails des différentes mitzvot, mais à votre Moab. On pourrait penser comme ça. Et le fait que la Torah le répète, ben, à votre Moab, bon, ça nous confirmerait que c'est comme ça que ça se passe. Alors ici, le problème, c'est que la Shemitah, elle n'est pas répétée. Et donc, toute cette année, cette histoire de la Shemitah, de l'année sabbatique, en fait, n'étant pas répétée, ça implique que tout a été donné au Sinaï, concernant la Shemitah. C'est-à-dire, on a dû donner le principe général, les détails, et les détails des détails. Tout, jusqu'au plus petit détail, a été donné au Sinaï. Et après, on se dit, mais en quoi est-ce que la mitzvah de la Shemitah, elle doit être entièrement donnée au Sinaï plutôt qu'une autre mitzvah? Pourquoi si, y a pas de raison de faire de différence? Et du coup, on dit effectivement, on veut pas faire de différence. Toutes les mitzvot ont été données de façon générale, dans le détail et dans le détail du détail au Sinaï. Ah, certaines sont répétées, on verra pourquoi en son temps. Mais de la mitzvah de la Shemitah, elle sert de modèle pour qu'on sache que toutes les mitzvot ont été données au Sinaï avec les détails et les détails des détails. Mais bien entendu, il reste quand même une question, c'est, ok, mais pourquoi est-ce que c'est la Shemitah qui est le modèle en question? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris une autre mitzvah qui n'est pas répétée, donc on peut déduire qu'elle a été entièrement dite au Sinaï et que c'est de cette autre mitzvah qu'on aurait appris que toutes les mitzvot ont été données dans leur totalité. Totalité, ça veut dire les règles générales, les détails et les détails des détails au Sinaï. Alors qu'est-ce que la mitzvah de Shemitah a de si particulier? Alors, il y a beaucoup d'explications. Et on pourrait dire la chose suivante. Vu une explication, bon, que je ne connaissais pas, puis, bon, ça vaut la peine peut-être. Ce qui s'est passé au Sinaï, comme vous savez, c'est que les Bnei Israël, ils n'ont pas voulu accepter la totalité de la Torah. Mais la Torah chez Birkav, ils l'ont acceptée, mais la Torah chez Baal Peh, ils ne voulaient pas l'accepter. C'est pas, vous comprenez bien que la Torah chez Baal Peh, c'est énorme. Bon, la Torah chez Baal Peh, ça nécessite un amal, la Torah, ça nécessite de bosser sans fin. D'accord? C'est pas un travail dont on sait, voilà, où, voilà, c'est terminé. C'est jamais terminé. Et puis, c'est d'une grande responsabilité. Et quelque part, c'est aussi cette idée presque impensable, parce que les hommes vont écrire la Torah. Et la Torah qui a été donnée aux hommes à travers Moshe Rabbeinu, c'est Hachem qui... Et après, maintenant, ce sont les hommes. Alors, bien sûr, on va dire, ils sont inspirés, bien sûr. La Nevoah, il n'y a plus de Navim, mais c'est les Chachamim qui sont inspirés, etc., tout ce que vous voulez, mais c'est quand même les hommes qui le produisent. Et donc ça... C'est effrayant. C'est très effrayant d'avoir en charge de faire ce travail. Donc les Bnei Israël ne le voulaient pas. Et à Kadosh Baruch Hu, comme vous savez, il les a menacés. Et il a retourné la montagne, comme on dit. C'est-à-dire, la montagne était comme une ruche. C'est-à-dire comme un grand panier. D'accord? Il a dit, ben voilà, je vais faire tomber ça sur vous, et c'est là que vous serez enterré, si vous n'acceptez pas la Torah. Il ne s'agissait pas que la montagne les écrase, vous avez bien compris, il s'agissait seulement que le bord de cette espèce de panier, là, allait servir de limite. Hachem leur a dit, votre horizon sera limité. D'accord, ça veut dire, ben, vous allez, comme une mouche qui est faite prisonnière sous un verre que vous avez retourné sur la table. Et la mouche, elle est là, vous l'avez pas écrasée, elle n'est pas morte. Mais elle va mourir. Et parfois, parce que son horizon, là, ben, c'est l'intérieur du verre, c'est l'intérieur du panier. Ça veut dire que vous aurez un horizon complètement bouché. Le seul moyen d'ouvrir l'horizon, contrairement à ce que certains pensent, c'est d'accepter la Torah. La Torah, c'est ce qui ouvre l'horizon. C'est l'ouverture face à la fermeture que donnent les idolâtries, etc. Et donc, quand Akadosh Baruch Hu a fait cela, en réalité, on peut se demander pourquoi c'était nécessaire, dans la mesure où les Bnei Israël avaient déjà dit « Naaseh v'nishma », etc. Donc ça veut dire qu'en vérité, ils étaient prêts. Mais ils avaient déjà dit « On va le faire ». Donc pourquoi il faut les menacer, etc. Akadosh Baruch Hu leur a, en fait, ce qu'il leur a dit, c'est qu'en réalité on peut entendre que les Bnei Israël avaient peur, en fait. On n'y arrivera pas. Trop difficile. On ne peut pas s'engager à cela. On voudrait bien, mais c'est trop difficile. Ça veut dire, on sait très bien que on aura dit oui, et puis demain on aura un problème, on aura des difficultés, et on risque de ne pas tenir la distance. Donc il vaut mieux, on va pas s'engager. Et du coup, de les menacer avec de la montagne, ce n'est pas du tout un moyen de les... C'est pas tellement une contrainte, c'est en fait c'est une aide. C'est-à-dire, quand on est dans une situation où on veut faire quelque chose, mais là il y a un obstacle. Bon, alors on se dit, je vais céder. Mais si j'ai pas la possibilité de céder, parce que je suis obligé, je suis contraint. S'il y a une contrainte, alors voilà, même quand j'aurais envie de céder, je ne céderai pas parce que il y a une contrainte. Je ne vais pas céder. Et donc en réalité, retourner la montagne en leur disant cela, c'est une façon de les aider à accepter. Et vous n'ayez pas peur. Puisque maintenant, vous acceptez sous la contrainte, vous pourrez toujours vous dire, voilà, tu sais, si je pouvais, je céderais. D'accord? Mais là, je ne peux pas faire autrement que de faire ce qui m'est demandé, parce que je suis contraint. La contrainte, ça aide. Beaucoup d'artistes diront que les contraintes, ça les aide dans leur art, c'est-à-dire s'imposer d'écrire un livre sans la lettre E ou de faire un tableau avec cette contrainte-là, etc. De faire des choses en s'imposant des contraintes. En musique, c'est archi connu. C'est Bach qui s'imposait, etc. Et il se pose des problèmes avec, on met une contrainte et on regarde comment on résout le problème en question. Donc la contrainte, souvent, ça aide. Et là aussi, c'est fait pour aider. Et alors, c'est comme ça qu'il faudrait l'entendre. Pourquoi est-ce que c'est la Shemitah qui a été choisie comme modèle au Sinaï? Pour nous dire que de la même manière qu'Hachem a aidé à la Kabbalah, à l'acceptation de la Torah au Sinaï, d'accord? De la même manière, Akadosh Baruch Hu nous aidera en mettant des contraintes, en fait, en nous obligeant. Bon, ça vient du Sinaï, donc vous êtes obligés. Donc, puisque de pratiquer la Shemitah, c'est une opération très difficile. Hazal disent que ceux qui pratiquent la Shemitah, ils sont giborei koach. C'est des héros, en fait. C'est extrêmement difficile. Et donc, la tentation de ne pas la pratiquer, parce que des raisons, il y en a plein. Mais Hachem dit, je vous aide, en fait. Ça a été donné au Sinaï, c'est-à-dire ça a été donné aussi avec la contrainte. Vous n'avez pas le choix. Et si on n'a pas le choix, alors on fait les choses. Parce qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas faire autrement. Bon, on n'en est pas moins héroïque pour autant. Mais on ne peut pas céder. On ne peut pas céder parce que la contrainte est là. La contrainte, elle est là pour m'aider. Et c'est ça, parce que la Shemitah est une des mitzvot. Je ne sais pas s'il y a une autre mitzvah sur laquelle il est dit que ceux qui font cette mitzvah sont des giborei koach. Je ne crois pas. Enfin, je ne connais pas tout, donc peut-être je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'ai jamais entendu un éloge pareil de ceux qui font cette mitzvah-là. Elle est plus ou moins difficile, mais cette mitzvah, elle est terriblement difficile. Terriblement difficile, pourquoi? Parce que vous avez bossé, vous avez travaillé, ce champ, vous l'avez travaillé, vous avez travaillé pendant 6 ans, vous avez travaillé ce champ. Et tout à coup, la 7e année, n'importe qui peut venir dans votre champ.
Personne.
Hmm?
Personne.
Quoi?
Personne.
Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, c'est juste ma femme, elle me souffle. Comment on écrit chant? Je pense que vous savez comment on écrit chant. Moi aussi, je savais. Bon. D'accord. C'est un chant. Ce chant, vous l'avez travaillé. Vous avez investi, etc. Et voilà, tout à coup, au bout de 7 ans, on nous explique. Alors voilà, l'autre, il peut venir s'installer dans ton champ, il peut manger. Il peut pas venir et faire du business avec des perroquets, pas les vendre. Mais il peut venir manger dans ton champ. C'est insupportable. Pensez à moi, c'est mon champ, j'ai travaillé là-dedans, c'est insupportable de voir. C'est très très difficile. Très facile pour nous qui sommes sur pas. Surtout c'est beaucoup plus facile quand on n'est pas agriculteur et quand on n'a pas travaillé dans les champs. Alors c'est plus facile à s'imaginer. Oui, bien sûr. Mais celui qui fait le travail, c'est très difficile. Et la Torah est tout à fait consciente que c'est difficile, et c'est parce que c'est tellement difficile que la Torah vient et te dit, voilà, je t'ai donné de l'aide. Cette mitzvah, elle a été donnée au Sinaï. Et celle-là, on a donné tout au Sinaï. Donc ça veut dire, même les digdukim sont sous la contrainte. Même la contrainte du Sinaï. Même les petits détails ont été donnés sous la contrainte. On pourrait dire, ouais, je vais faire globalement attention, on va pas travailler dans les champs, mais bon, on va quand même peut-être vendre un petit peu, peut-être pas dans les grandes surfaces, mais on va faire de la vente locale, etc. Non, on peut rien faire, on peut pas vendre. Et les autres, bah, ils vont venir, ils peuvent rien faire. Bon. Même dans le détail, tu peux pas. Tu peux pas faire quoi que ce soit dans le détail, mais je t'ai aidé, et c'est en cela. L'aide que je t'ai donnée, c'est de te dire que tout, dans tous les détails, a été donné au Sinaï. Oublie, on a dit la même chose sur toutes les mitzvot. Oui, mais c'est ça le modèle. Le modèle, c'est, ici, on a besoin d'une aide particulière, c'est pour ça que c'est ça qui est mis, en évidence, si vous voulez. Voilà. Voilà, c'est deux petites choses sur des parchiotes extrêmement riches, comme toutes les parchiotes. Et quand en plus il y en a deux, c'est assez difficile. Que Dieu vous souhaite Shabbat Shalom. Et bah, d'abord, bonne soirée, Shabbat Shalom. Et puis, vous devez passer maintenant au Tehillim. Alors,
c'est Shabbat Shalom. Merci beaucoup, Shabbat Shalom. Merci beaucoup.
Toutes les initiales, je vous salue.
Merci, Shabbat Shalom.
Merci.